Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les réactions sont nombreuses, indignées à chaque fois. Après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux en marge de la mobilisation des lycéens, c'était hier à Mantes-la-Jolie, des dizaines d'élèves ont été mis à genoux par des policiers. Réaction et analyse dans un instant.
Nous entendrons ensuite les mises en garde du Premier ministre Édouard Philippe avant la mobilisation des Gilets jaunes. Demain, près de 90 000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés partout en France.
De la sécurité et des concessions sur le plan économique. Les primes de fin d'année pourraient être défiscalisées. Les patrons des petites et moyennes entreprises sont d'accord, vous l'entendrez. Après ce journal, cette question posée par Frédéric Seyss dans son billet politique, pourquoi le gouvernement n'a-t-il rien vu venir ?
Et avant cela, nous donnerons la parole à un représentant de l'ONG SOS Méditerranée. Le navire, l'Aquarius, met un terme au sauvetage de migrants après 18 mois d'acharnement, disent les humanitaires.
Et puis vous entendrez un artiste cubain qui vient de sortir de prison sur l'île à partir d'aujourd'hui. Toute œuvre culturelle devra obtenir l'autorisation du ministère de la Culture avant d'être diffusée.
Voilà une classe qui se tient sage.
Une classe à genoux, des dizaines de lycéens, les mains sur la nuque ou bien les mains dans le dos face à un mur en béton, surveillé de près par des policiers en tenue d'émeute. La scène a été tournée hier à proximité du lycée Saint-Exupéry de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines à l'ouest de Paris. Une manifestation y a tourné en affrontement, se finissant par 153 interpellations et donc des lycéens âgés de 12 à 20 ans à genoux. Bonjour Sophie Delpont.
Bonjour.
La préfecture s'est exprimée hier, Sophie, face aux critiques déjà nombreuses et nous y reviendrons. La préfecture insiste sur la violence des lycéens.
Oui, le directeur du cabinet du préfet des Yvelines, Thierry Laurent, a tenté de minimiser la riposte des forces de l'ordre, la violence de ces images chez nos confrères de France Info.
Il n'y a pas eu de volonté d'humiliation. Il y a des précautions qui sont prises parce que nous sommes dans un contexte de violence. Il faut s'assurer de la personne de ces interpellés. 70 fonctionnaires de police qui procèdent à l'interpellation de 151 individus. Ces jeunes qui s'étaient montrés extrêmement agressifs, extrêmement violents dans les heures qui ont précédé et dans les jours qui ont précédé. Hein. Aucun de ces jeunes n'a été blessé au cours de cette interpellation.
Aucun jeune n'a été blessé, ce sont ces mots, alors que l'image des lycéens à genoux, mains sur la tête, a déclenché une vague d'indignation dès sa mise en ligne hier. Alors que le secrétaire général adjoint du syndicat SNES FSU, Benoît Test, vient lui aussi de condamner ces images.
On est extrêmement choqués par ces images qui sont insupportables, qui sont, j'ai envie de dire, indignes de notre démocratie. On ne peut pas tolérer que des jeunes comme ça soient humiliés. On a peu d'informations sur la manière dont ça s'est passé. On n'a pas l'habitude, heureusement encore, de voir ce genre de scène. On ne sait pas pourquoi les forces de l'ordre ont agi ainsi.
Voilà pour la première réaction du syndicat du SNES FSU. Sophie Delpont, les critiques viennent également de la part de la classe politique de tous bords sur les réseaux sociaux.
Oui, que penser d'un pouvoir qui traite ainsi sa jeunesse, qu'il ne tient pas que par la force des matraques, qu'il n'a plus d'avenir, qu'il est à l'agonie, lance le député LFI François Ruffin. Image insoutenable d'un gouvernement aux abois qui n'hésite plus avec les pires méthodes pour museler la colère de la jeunesse, écrit de son côté Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste. Alors qu'Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, interpelle le gouvernement par ces mots. Quels que soient les faits reprochés, rien ne justifie cette humiliation de mineurs filmés et commentés. Messieurs Castaner et Blanquer, il est de votre responsabilité de réagir vite. Eh bien, le feu couve, ne l'attisez pas. Sur Twitter également, l'ancien socialiste Benoît Hamon, ancien ministre de l'Éducation nationale, déclare « glaçant, inadmissible, ce n'est pas la République. La jeunesse française est humiliée, mais que cherche le pouvoir sinon la colère en retour ?» Tour. Alors qu'à droite aussi, l'ancien ministre Thierry Mariani interroge « Que dirait un BHL si ces images venaient du Venezuela, de la Russie ou de la Turquie ?» Avant d'ajouter « Je soutiens les forces de l'ordre, mais vous n'imaginez pas l'impact de ces images à l'étranger. »
Merci beaucoup Sophie Delpont pour ces précisions ce matin. Notons qu'hier au total près de 300 établissements scolaires étaient concernés par ce mouvement de protestation, un mouvement contre les réformes du baccalauréat, de la voie professionnelle et de l'accès à l'université. Le syndicat, l'UNL, appelle à la mobilisation aujourd'hui encore. Voilà pour les violences et maintenant la peur des violences. Demain ce sont les Gilets jaunes qui veulent se rassembler pour le quatrième week-end de suite, mais l'exécutif s'inquiète de nouveau. Débordement. Le Premier ministre Édouard Philippe l'a redit hier soir sur le plateau de TF1, précisant les forces mobilisées demain, une première depuis les émeutes de 2005.
Nous allons utiliser une douzaine de véhicules blindés de la gendarmerie qui sont parfois utilisés dans des opérations, ça a été le cas à Notre-Dame-des-Landes, parce que nous avons en face de nous des gens qui ne sont pas là pour manifester, mais qui sont là pour casser. Et nous voulons faire en sorte de ne pas leur laisser les mains libres. Nous avons mobilisé un nombre considérable de forces de l'ordre, 8000 à Paris, c'est beaucoup plus encore que samedi dernier, et au total, sur l'ensemble de la France, non pas 65 000, mais 89 000. C'est-à-dire que c'est vraiment une mobilisation exceptionnelle, parce que nous ne voulons pas, encore une fois, que la République, les institutions, la sécurité collective soient mis en jeu.
Demain notamment donc, Paris pourrait être vide. Une douzaine de musées seront fermés, dont le musée du Louvre, le musée d'Orsay, le Grand Palais, le musée de l'Homme ou le musée d'art moderne à Paris. Idem pour la Tour Eiffel ou les catacombes. Et puis les spectacles sont annulés, certains en tout cas, à l'Opéra de Paris, la Comédie Française, au Théâtre Marigny ou encore à celui des Champs-Élysées, fermés exceptionnellement donc. Sur le volet des revendications des Gilets jaunes disparates maintenant, les concessions du gouvernement s'accumule. Après l'abandon de la hausse des taxes sur le carburant et le gel des tarifs de gaz et d'électricité pour cet hiver, il ouvre maintenant la porte à des mesures salariales dès cette fin d'année, proposant de défiscaliser les primes de fin d'année. Aujourd'hui, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, invite les partenaires sociaux pour discuter de ces mesures. La CPME notamment sera présente, syndicat des petites et moyennes entreprises, qui voit d'un bon œil les récentes annonces du gouvernement. Voilà ce que souligne au micro d'Anne Lorchouin son secrétaire général Jean-Eudes Duménil.
Bruno Le Maire a accepté une demande de longue date de la CPME consistant à dire que on pourrait octroyer une prime pour tous les salariés. Alors nous on propose que ce soit dans la limite de 1000 euros par an et que cette prime soit défiscalisée pour les salariés et nette de charges pour les entreprises. Donc ça inciterait les employeurs à distribuer cette prime, et du coup, il n'y aurait pas de fiscalité en face pour les salariés. Donc voilà, ça c'est une mesure pouvoir d'achat. Il y en a une autre qu'on propose côté CPME, c'est la question des heures supplémentaires. Là aussi, ce qui avait été fait il y a quelques années, ça fonctionnait très bien, c'était pour les salariés qui font des heures supplémentaires, que ces heures supplémentaires soient exonérées du paiement de charges et qu'elles soient ensuite non soumises à fiscalité. Là, c'est quelque chose qui est gagnant, c'est-à-dire que les salariés gagnent davantage, les entreprises peuvent faire de l'activité en face et donc ça génère de la croissance et du chiffre d'affaires et puis ça coûte rien aux finances de l'État.
Jean-Eudes Duménil du syndicat la CPME au chapitre des mesures possibles encore. Le Premier ministre veut avancer sur le principe d'une prime transport qui serait versée là aussi par les entreprises puis exonérée de l'impôt par l'État. Face à la mobilisation, Emmanuel Macron est lui resté silencieux depuis dimanche dernier, depuis son retour du G20 en Argentine. Il devrait s'exprimer en début de semaine prochaine, c'est ce qu'assure ce matin Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale et proche du président.
8h08 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Le navire Aquarius ne fait plus d'opérations de sauvetage des migrants.
Les ONG Médecins Sans Frontières et SOS Méditerranée annoncent y mettre un terme. Renoncer donc après deux mois passés sans pavillon pour le navire l'Aquarius. Une décision extrêmement difficile à prendre, avoue le directeur des opérations de SOS Méditerranée, Frédéric Penard. Mais une décision nécessaire, dit-il.
Malgré lui, l'Aquarius était devenu une espèce de symbole qui catalysait un certain nombre d'acharnements, un certain nombre de pudeur, de prudence, qui faisait que les solutions étaient probablement plus compliquées à trouver avec l'Aquarius qu'avec un autre navire. Et aujourd'hui, c'est le pari qu'on fait pour pouvoir repartir très vite en mer. Il y a une espèce d'acharnement sur ce navire qui fait que ça nous est apparu plus utile de mettre notre énergie au service du redépart en mer, parce que en attendant, plus de 2100 personnes sont mortes en Méditerranée centrale depuis le début de l'année, pour lequel il n'y a plus de bateaux aujourd'hui. On est en discussion avec plusieurs armateurs, plusieurs compagnies, et plusieurs options sont en train de se dessiner. C'est quelque chose qu'on est en train de travailler. On va trouver une option très rapide pour pouvoir repartir en mer. Oui.
Frédéric Penard, interrogé par Théo Hetch. Partons maintenant à Cuba, où aujourd'hui, plusieurs dizaines de lois restrictives vont entrer en vigueur, et notamment un décret, le décret 349, qui prévoit que toute œuvre culturelle devra obtenir l'autorisation du ministère de la Culture cubain avant d'être produite, montrée, jouée ou diffusée. Depuis des mois, un collectif d'artistes s'est mobilisé contre ce décret. Ces artistes sont d'ailleurs régulièrement arrêtés ou assignés à résidence. Cécile de Kervas-Doué a pu joindre l'un d'entre eux à sa sortie de prison. Il participe toujours aux manifestations.
Depuis 6 mois, un collectif d'artistes parfois de renommée internationale, comme la plasticienne Tania Bruguera, est mobilisé à La Havane. Concerts, happening, poésie, performances, ils dénoncent publiquement le décret 349 qui, pour eux, s'apparente à de la pure censure. Amaury Pacheco est poète et plasticien. Cette semaine, il a passé 3 jours en prison, mais à partir d'aujourd'hui, il pourrait y rester beaucoup plus longtemps.
D'une certaine manière, nous avons réussi durant les années 90 à ouvrir un peu l'espace artistique à Cuba. Mais aujourd'hui, cette loi nous rappelle vraiment ce qui est arrivé à tous les intellectuels dans les années 70. C'est une loi fasciste qui instaure un contrôle total de la production artistique avec un inspecteur de la censure qui va décider ce qui est art ou pas. Ça va faire mourir toute possibilité d'espace indépendant à Cuba.
Officiellement, le gouvernement cubain veut lutter contre ce qu'il qualifie de pseudo-culture de mauvaise qualité. Tous les contrevenants seront donc soumis à des amendes, la confiscation de leurs instruments, l'annulation des spectacles, la suspension des licences et bien sûr, la prison. Un décret qui semble aux antipodes de l'ouverture affichée par le gouvernement à l'étranger et des consultations citoyennes censées renouveler la constitution cubaine le 24 février prochain. Mais pour Amaury Pacheco, il n'y a aucun paradoxe.
Je pense que la future nouvelle constitution, qui brandit l'ouverture au privé, ou le mariage homosexuel, tout ça pour moi c'est un écran de fumée sur lequel le gouvernement communique. Mais derrière, la liberté d'expression et la liberté d'entreprendre sont bâillonnées plus que jamais, car le gouvernement a une peur panique de la lente privatisation du pays.
Sous la pression de manifestations internationales, notamment à Londres, en soutien aux artistes emprisonnés cette semaine, le pouvoir cubain les a finalement relâchés et a promis un amendement à cette loi qui interdit d'ores et déjà à Cuba toute culture non officielle.
Cécile de Kervas-Doué, et notons un recul notable tout de même de la part du gouvernement cubain sur ces lois restrictives. Une 20aine de mesures visaient à limiter l'expansion du secteur privé sur l'île, secteur qui emploie aujourd'hui 13% des Cubains. Elles sont finalement ces lois plus souples que, a priori, qu'elles avaient été prévues. Nous connaîtrons aujourd'hui le successeur d'Angela Merkel à la tête de la CDU, celle ou celui qui sans doute sera ensuite candidat à la chancellerie pour le parti conservateur allemand. Angela Merkel passe donc la main lors du congrès de la CDU jusqu'à demain à Hambourg. Elle prononcera son discours d'adieu dans la matinée, puis dans l'après-midi, le nom de son successeur sera choisi. Ils sont 3 candidats, Jens Spahn, mais surtout Annegret Kramp-Karrenbauer et Friedrich Merz, les 2 favoris. Ces candidats veulent solder l'héritage Merkel. Merkel qui est apparue hier plutôt décontractée, Ludovic Piétonu.
À l'heure de tirer sa révérence à la tête de la CDU, Angela Merkel semble plus détendue que jamais. Hier soir, dans un bar du port d'Hambourg, elle prend la parole devant la presse et ce n'est pas commun chez elle, suscite les rires des confrères allemands. « Je me suis tenue à une neutralité absolue », dit-elle. Qui peut croire à cela venant d'une femme politique hors norme? Son intérêt, c'est la victoire d'Annegret Kramp-Karrenbauer, soutenue entre autres par le ministre de l'économie, Peter Altmaier.
Elle propose un programme tout à fait moderne, pro-européen, avec un équilibre social. Sociale, écologique, des arguments pour voter pour elle.
Il y a 1001 délégués pour arbitrer entre Annegret Kramp-Karrenbauer, surnommée AKK, et son rival Friedrich Merz, 62 ans, millionnaire, évincé du jeu politique il y a 16 ans par Angela Merkel. L'homme veut prendre sa revanche. Impossible de dire lequel des deux l'emportera. Bon nombre de délégués sont encore hésitants, comme Roland Heinz, président de la CDU. À Hambourg, où se déroule le congrès.
Ça va être serré. Je pense qu'il y aura 2 tours, mais je suis certain que le parti se rassemblera derrière le candidat élu, parce que c'est ce que souhaitent nos électeurs.
Diriger la CDU, c'est être demain candidat à la chancellerie et donc contester l'autorité de l'actuel locataire. Angela Merkel s'est fixé un objectif, aller jusqu'au bout de son mandat, tenir 3 ans, mais ce sera long.
Une campagne nationale contre le harcèlement sexuel dans les transports publics débute aujourd'hui en Tunisie. La Tunisie où plus de la moitié des femmes affirment subir ce genre de comportement déplacé. Une application pour géolocaliser les lieux où elles sont harcelées leur est proposée par les autorités tunisiennes. Aujourd'hui aussi, Amnesty International lance une campagne pour soutenir justement les femmes militantes des droits fondamentaux, des femmes harcelées dans leur pays. Et comme tous les ans, France Culture consacre son grand reportage de début décembre à Amnesty International. Sa campagne cette année s'appelle 10 jours pour signer, sorte de pétition mondiale au profit de 10 personnes pendant 10 jours. Éric Bégala.
Le principe de cette campagne, 10 jours pour signer, est simple. Amnesty incite le grand public à signer des pétitions, à rédiger des lettres de soutien ou encore à écrire directement au gouvernement pour exiger la fin des poursuites ou la libération des défenseurs des droits fondamentaux, et ce partout dans le monde. Avec un coup de projecteur particulier sur 10 d'entre eux. 10 d'entre elles, devrait-on dire cette année. La campagne 2018 d'Amnesty, en effet, se concentre particulièrement sur les femmes militantes qui sont harcelées, emprisonnées ou même tuées parce qu'elles défendent ces droits fondamentaux. Dans notre grand reportage de ce vendredi, nous avons choisi de nous concentrer sur les cas de deux de ces femmes. Sarah Doublier, notre correspondante au Maroc, nous racontera la campagne et la répression de ce que l'on a appelé le Hirak du Rif, le mouvement du Rif dans les années 2016-2017 autour de Nawal Ben Aïssa. Cette mère de famille de 4 enfants, qui fut l'une des voix de ce mouvement social demandant davantage d'investissement dans la région du Rif, est détenue à 4 reprises. Elle a été condamnée à 10 mois de prison avec sursis. Forcée de déménager, elle demeure sous la pression constante des autorités marocaines, particulièrement au moment où s'ouvre le procès en appel d'une cinquantaine de protestataires du Hirak, la plupart condamnés à de très lourdes peines en première instance, jusqu'à 20 ans de réclusion. Second coup de projecteur de ce grand reportage, l'Inde, et plus précisément la région de Chhattisgarh, dans le centre du pays, où notre correspondant sur place, Kaum Bastin, est allé rencontrer Pavitri Manhij, une chef élue du conseil de village de Bengari, qui se bat bec et ongle pour éviter à sa communauté, des aborigènes adivasi, d'être une fois de plus expulsés de leurs terres ancestrales, où l'Inde entend construire 2 centrales électriques.
Voilà donc pour le grand reportage qui sera diffusé à partir de 17h ce soir sur France Culture. Il s'intitule « Signer pour sauver des vies » et il est réalisé grâce à Annie Bro. Il sera ensuite suivi d'un débat ce soir animé par Aurélie Kiefer aux côtés de la présidente d'Amnesty France, Cécile Coudriou. Une nouvelle perturbation pluvieuse va traverser la France aujourd'hui d'ouest en est, d'abord par la Bretagne puis jusqu'au bassin parisien pour ensuite rejoindre l'est et le sud de la France sous des températures assez douces avec ce matin 9 degrés à Lyon, 11 à Bordeaux et Strasbourg, comptez 12 degrés à Lille et Paris, 13 à Rennes et à Aix-en-Provence.